L'heure des informations qui vous sont présentées par Louis-Valentin Lopez. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron, sous le feu des questions, dans 2 heures, le chef de l'État sera interrogé par 2 journalistes réputés intransigeants, Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel. Entretien dans un contexte de grogne sociale, cheminots, étudiants, zadistes. La posture délicate du président analysée par Olivier Roucan, politologue. La ZAD, nous en parlerons aussi, notre envoyé spécial Sébastien Sabiron a suivi des zadistes. Certains essaient de reconstruire ce qui a été détruit par les forces de l'ordre. La Syrie est toujours les négociations après les frappes d'il y a 2 jours. La réalité sur le terrain, décryptée par Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Cyril Graziani lui évoquera les coulisses politiques en France. Demain, au Parlement se tiendra un débat sur l'intervention militaire, mais pas de vote. Actualité catalane aussi, les indépendantistes en nombre dans les rues de Barcelone cet après-midi. Sébastien Berriot était dans le cortège. Et puis la disparition d'un maestro du cinéma italien, Vittorio Taviano, réalisateur avec son frère du chef-d'œuvre notamment Padre Padrone, primé par la Palme d'Or. Macron et les médias, 2 mots qui n'allaient pas forcément de pair. Oui, mais il y a 4 jours, le chef de l'État est intervenu sur TF1 et ce soir, ce sera BFM TV. Emmanuel Macron face aux 2 journalistes, Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin. Séquence médiatique attendue qui intervient au milieu d'une séquence sociale pas très agréable pour le président. Blocage d'université, grève à la SNCF, colère des retraités. Ce début de printemps est donc un test pour Emmanuel Macron qui veut faire passer ses réformes tout en évitant le conflit social. Un numéro d'équilibriste qui va être dur à tenir selon Olivier Roucan, politologue.
La posture d'autorité et de verticalité pourrait finir par s'user parce que nous sommes dans des sociétés qui, sur beaucoup de plans, sont organisées de façon relativement horizontale, où il y a vraiment une volonté d'émergence à plusieurs endroits de la société, d'initiatives qui viennent du bas. Et donc, à terme, on pourrait penser que cette posture verticale deviendrait une rigidité, particulièrement dans le cadre des mouvements liés à la jeunesse. Si vous voulez, si ceci s'installe et se répand, eh bien, ça mettra le président en décalage avec cette population dont il a pourtant annoncé dès sa campagne qu'il voulait faire une priorité.
Et est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron a la possibilité de reculer sur les réformes qu'il a annoncées?
Là encore, ce serait un aveu de faiblesse, parce que quand vous affichez d'emblée une grande fermeté, dès lors qu'il y a un début de renoncement sur un des points, ce serait interprété par une partie des mêmes qui aujourd'hui soutiennent Emmanuel Macron parce qu'il incarne une forme d'ordre, et bien ce serait un aveu de faiblesse qui coûterait en termes d'opinion, oui.
Donc c'est soit Emmanuel Macron persiste et se met une partie de la population à dos, soit il renonce et finalement les personnes qui le soutiennent le verront comme une personne qui s'est laissée faire, c'est ça ?
Disons que ce sera difficile pour lui de ne pas perdre sur au moins une partie du tableau, sauf à trouver véritablement un compromis avec les forces syndicales, qu'elles soient étudiantes ou liées notamment au conflit à la SNCF. Donc s'il arrive à négocier et à gérer un compromis, alors là, il pourra sortir gagnant de l'affaire, mais il faut que ça aille vite et il faut que ce compromis soit suffisamment solide pour entraîner des forces syndicales significatives. Donc là, s'il y a véritablement un conflit qui s'installe et ou bien des renoncements majeurs ou bien un passage trop en force, cela aura des conséquences sur la suite.
À propos recueilli par David Ravier, et nous l'apprenons à l'instant, 1 millier de personnes se sont rassemblées donc aujourd'hui près de l'Assemblée nationale à Paris. Ils dénoncent le controversé projet de loi immigration et asile à la veille de son examen par les députés. C'est un journaliste de l'AFP qui l'a constaté sur place. Restons justement au chapitre des contestations sociales. Nous avons la chance d'avoir avec nous en studio Christiane Ferral-Schul, présidente du Conseil national des barreaux pour la mandature 2018-2020. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors mercredi dernier, vous étiez dans la rue, si je ne dis pas de bêtises, avec 7000 confrères contre le projet de réforme de la justice qui doit être présenté dans 4 jours. Alors est-ce que la justice, pour vous, est à ajouter à la liste des catégories et des professions que le président s'est mis à dos ?
Il est plutôt rare de voir 7000 professionnels, avocats, magistrats, greffiers, professionnels du droit, se rassembler et défiler pour les droits des citoyens, puisque c'était le mot d'ordre. C'est la méthode qui a été employée qui a réveillé dans un climat anxiogène la colère.
Une méthode trop brutale, en fait.
On était parti dans une approche de concertation et le projet de loi nous a été présenté quasiment en même temps qu'à la presse. On a eu un délai extrêmement contraint pour réagir sur ce projet, puisqu'on avait une semaine. Et du coup, ça a été vécu parce qu'il y a un éclatement entre la partie législative, le texte de loi lui-même, et des textes réglementaires que nous n'avons pas.
D'accord.
Donc du coup, il y a eu une incompréhension sur cette concertation. Mais ce que je constate, c'est que le lien est rétabli et nous négocions, nous avançons de manière constructive. Donc la concertation repart.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Christiane Feralschuil. On vous retrouve dès la fin de ce journal, dans dimanche et après. Direction Nantes à présent, avec le rassemblement pacifique sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Le calme est relatif à présent, après des heurts ce matin entre 300 manifestants et les forces de l'ordre. Les gendarmes qui continuent de verrouiller cependant fortement la zone. Sébastien Sabiron a suivi un groupe de zadistes pour qui la lutte passe maintenant par la reconstruction. Écoutez.
Ils détruisent, on reconstruit le mot d'ordre du jour sur la ZAD avec cet étrange balai dans les sous-bois, une charpente transportée à dos d'homme.
On transporte tout à la main maintenant, jusqu'à la Saulce, c'est-à-dire du carrefour tenu par les flics, donc à se relayer, à se débrouiller.
Ils sont des milliers dans la ZAD aujourd'hui malgré les accès partiellement bloqués par les forces de l'ordre depuis ce matin. Camille vivait dans la ferme des 100 noms détruite cette semaine.
Nous, on a envie de continuer avec tous les gens qui sont là, avec tous les gens qui nous soutiennent, de défendre ce projet collectif et reconstruire un lieu, une salle de réunion pour les habitants de la ZAD et qui est aussi le lieu de notre marché.
La charpente du marché est surmontée d'un doigt d'honneur en bois adressé au gouvernement. Édouard Philippe rappelait vendredi que l'État n'accepterait pas de reconstruction dans la ZAD, à moins que les occupants déposent des demandes individuelles d'installation agricole, inacceptable pour cette autre Camille.
Clairement, Macron est un libéral, il cherche à avoir des individus qui font des choses. Et on considère que la force, elle est collective et qu'elle est productrice d'une grande richesse humaine, sociale, économique et politique.
Il y a quelques minutes, une partie de la charpente a pu être acheminée tout près de l'ancien lieu détruit, sous le regard de centaines de gendarmes mobiles qui ceinturent le sud de la ZAD dans un face-à-face calme. Pour le moment, les forces de l'ordre ont même reculé de quelques mètres.
Sébastien Sabiron. Deux nouvelles frappes occidentales en Syrie provoqueraient le chaos dans les relations internationales. C'est le terme très fort employé par Vladimir Poutine. C'était tout à l'heure, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue iranien Hassan Rouhani. Réaction après les frappes coordonnées menées il y a deux jours par le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Alors après ces frappes, qui est maître du jeu sur le territoire syrien? Élément de réponse avec Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
La réalité sur le terrain est favorable à Bachar el-Assad et ses alliés russes et iraniens. C'est eux qui tiennent l'essentiel du pays et c'est eux qui, sur le plan militaire, sont en position de force dans la mesure où les frappes d'il y a deux jours ont peut-être été venues détruire des installations chimiques de Bachar el-Assad, mais ne sont pas venues inverser le rapport de force militaire à l'échelon global. Poutine a gagné son pari d'être un peu le maître du jeu en Syrie. Il faut maintenant voir quel est l'état du rapport de force entre lui et Bachar el-Assad. Mais en tous les cas, par rapport aux Occidentaux, il tient solidement la ligne et il est en position de force. Pour l'instant, la Russie n'a rien perdu et n'a pas été frappée directement. On voit que chacun est resté à la limite. Il y a les lignes rouges qui avaient été fixées par les Occidentaux qui sont de ne pas utiliser les armes chimiques. Il y a une autre ligne rouge, qu'il n'y ait pas d'affrontement direct entre les Occidentaux d'un côté, les Russes et les Iraniens de l'autre. Et cette ligne rouge est certainement encore plus importante à ne pas franchir.
Et en France, sur la question syrienne, il y aura un débat, mais pas de vote. Les parlementaires discuteront demain de l'opportunité d'une opération militaire. C'est en fait l'article 35 de notre Constitution. Ouvrez les guillemets, le gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard 3 jours après le début de l'intervention. Alors ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe réunissait les responsables de l'Assemblée et du Sénat. Photographie politique avec Cyril Graziani.
1h30 pour faire le service après-vente de cette intervention avant le débat qui aura lieu demain à l'Assemblée nationale et au Sénat. Depuis hier, on l'a entendu, Jean-Luc Mélenchon ne décolère pas. Ce matin, il a en face à face fait part de ses doutes à Édouard Philippe.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le président a fixé des lignes rouges, donc les lignes rouges ont été dépassées, donc on attaque à bon. On est devenu le shérif de la planète maintenant. Et puis quoi, Monsieur le Président a tracé des lignes rouges en mai dernier, alors pourquoi on ne pouvait pas en parler au Parlement? On aurait pu avoir cette discussion. On est capable de l'avoir et d'avoir une majorité qui dit oui, si telle condition sont réunies, on intervient militairement. Il y a beaucoup de désinvolture, beaucoup d'arrogance monarchique dans tout ça.
Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, lui, se félicite de l'intervention, mais aussi qu'il y ait un débat demain. Il en profite pour cogner sur certains groupes d'opposition.
Les Français pourront voir qui est avec qui. Qui, en France, fait preuve d'une grande mansuétude, pour ne pas dire d'une grande faiblesse, à l'égard de la Syrie de Bachar al-Assad d'une part, mais aussi, disons-le, à l'égard de la Russie.
Le débat aura lieu demain au même moment à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais ce sera sans vote.
La Syrie abordée aujourd'hui lors du sommet annuel des membres de la Ligue arabe. Cela se passait en Arabie Saoudite, avec des discussions aussi sur l'Iran, le Yémen et l'avenir de Jérusalem. Cette dernière question a été placée en tête des priorités arabes. Le roi Salman, dont le pays est un proche allié des États-Unis, a rejeté la décision de l'administration de Donald Trump. Le transfert, en principe à la mi-mai, de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Il a aussi annoncé un don de 150 millions de dollars pour soutenir ce qu'il appelle les biens islamiques dans la partie est de la Palestine, occupée et annexée par Israël. À Barcelone, une foule jaune et rouge cet après-midi. Près de 350 000 manifestants se sont réunis. Ils réclamaient la remise en liberté des dirigeants indépendantistes incarcérés par la justice espagnole. Cette semaine, la Cour suprême a refusé de libérer sous caution Jordi Sanchez, que les indépendantistes souhaitaient porter à la présidence de la région, avec un slogan dans toutes les bouches, Sébastien Berriot.
Liberté pour les prisonniers politiques, c'est le slogan du jour. Au milieu de la foule, à côté des drapeaux catalans, des dizaines de pancartes avec les visages des 9 dirigeants indépendantistes aujourd'hui emprisonnés. Clara est venue de la banlieue de Barcelone pour demander leur libération immédiate.
Ils sont tous en prison pour nous avoir laissé le choix de pouvoir voter. On a très peur parce qu'ils peuvent avoir des condamnations pour 35 années. Alors c'est pas la blague, hein. 35 ans, c'est toute une vie. Hein. C'est la répression, on a peur de parler, maintenant on est beaucoup de monde ici. Mais les journalistes qui parlent, les politiciens qui disent ils sont tous menacés, peuvent être en prison demain.
Les sifflets retentissent lorsque l'hélicoptère de la police survole le défilé. La colère est bien visible sur de nombreux visages. On dénonce la répression de Madrid et aussi l'absence de séparation des pouvoirs. Josep Maria, habitant de Tarragone.
En Espagne, il n'y avait pas les séparations des pouvoirs, comme avait dit Montesquieu. Les législatifs, les judiciaires et les politiques, c'est les mêmes. C'est à les ordres de le gouvernement espagnol.
La manifestation s'est dispersée dans le calme. Les indépendantistes ont une nouvelle fois montré leur capacité à organiser une démonstration de force complètement pacifique.
Et au cas où l'élection du président régional ne serait pas possible d'ici le 22 mai, un nouveau scrutin devra être organisé en Catalogne. 6 mois après l'assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana, 18 médias internationaux, dont Radio France, se réunissent sous l'organisation Forbidden Stories. Ils s'apprêtent à sortir une série de révélations sur la corruption et le blanchiment d'argent à Malte. 45 journalistes ont participé depuis 5 mois au Daphne Project, le projet Daphne, dont le but était de poursuivre les investigations menées par la journaliste dont la voiture piégée avait explosé en octobre 2017. Puis c'est un tandem virtuose du cinéma, désormais amputé de sa moitié. Le réalisateur italien Vittorio Taviani nous a quittés aujourd'hui à 88 ans avec son frère Paolo. Il a signé de grands films, Padre Padrone notamment, Palme d'or du Festival de Cannes en 1977. Petit point très rapide sur la météo. Des grisailles se formeront dans la nuit, seront présentes au lever du jour de la Bretagne au centre. Des éclaircies tout de même en cours de matinée, elles s'imposeront du sud-ouest au nord-est et le ciel restera couvert aux abords des massifs pyrénéens, des Pyrénées-Atlantiques à l'est de la chaîne. Cette édition a été préparée avec l'aide de Caroline Beneteau.